La Cinémathèque de France Culture vous invite à découvrir la collection Écran sans images. Des trésors radiophoniques, des enregistrements d'époque, numérisés et restaurés, un voyage dans le cinéma des années 40, à travers les scénarios et les voix des plus grands réalisateurs et comédiens, français et étrangers de l'après-guerre. Aujourd'hui, Ernst Lubitsch. Le ciel peut attendre, 1947. Réalisateur américain d'origine allemande, Ernst Lubitsch a réalisé une cinquantaine de films en 30 ans. Il commence sa carrière en Allemagne, puis rejoint Hollywood en 1923. Il reste célèbre pour ses comédies, sur le mode de la satire, notamment La huitième femme de Barbe Bleue, film considéré comme son chef-d'œuvre. Le ciel peut attendre, qui s'apparente à une comédie, verse dans la mélancolie avec le déclin d'un homme et à travers lui d'une certaine aristocratie. Le scénario raconte l'arrivée au ciel d'Henry Cleave, faute de place en enfer et malgré un palmarès de Don Juan.
La Voix de l'Amérique présente une adaptation radiophonique d'un film des studios 20th Century Fox, Le ciel peut attendre, avec Jean Tierney dans le rôle qu'elle a créé à l'écran et Victor Franssen dans celui créé à l'écran par Don Ameche. Avant de commencer, chers auditeurs, M. Victor Franssen désire vous dire quelques mots.
Chers auditeurs, dans quelques instants, nous allons avoir le plaisir de jouer pour vous l'adaptation radiophonique d'un film « Le ciel peut attendre ». Et vous allez pouvoir écouter pour la première fois à la radio la voix de l'une des plus ravissantes et des plus nouvelles stars de Hollywood dans le rôle qu'elle a créé à l'écran. Je désire vous présenter Miss Jean Tierney, blonde, mince, avec de grands yeux bleu-gris, et cette grâce que l'on a à 20 ans, et qu'elle ne perdra pas, j'en suis sûr, même quand elle n'aura plus 20 ans.
Merci, mon cher Victor Franssen. Bonjour, chers auditeurs. Je suis confuse de tous ces compliments. Ce qui est vrai, c'est que, bien que je sois américaine, j'ai passé quelques années de mon enfance en France. Je suis donc ravie de pouvoir jouer pour vous avec votre grand acteur Victor Franssen. Et maintenant, si vous le voulez bien, nous allons commencer.
Le ciel peut attendre. Avec Jean Tierney dans le rôle de Marc Stradier qu'elle a créé sur l'écran. Et Victor Franssen dans celui de Monsieur Henri Clair. Et avec Marcel Daliot dans le rôle de Son Excellence. Quand à l'âge de 70 ans, Henri Clève mourut, il comprit immédiatement qu'il avait fort peu de chances d'être admis au ciel. Aussi se présenta-t-il à l'endroit où tout le monde lui avait prédit qu'il irait, en enfer.
Vous êtes Lucifer, le garçon d'ascenseur ?
Oui, monsieur Clève, je suis Lucifer Junior.
Ah bon, je ne me suis pas trompé. Vous descendez bien directement.
Tout ce qu'il y a de plus directement, monsieur Clair.
Arrivé en bas, Henri Clair fut conduit dans l'antichambre d'un personnage considérable, connu sous le nom de Son Excellence. Oui, un huissier vint murmurer quelques mots à l'oreille d'Henri Clair et le fit entrer dans une vaste pièce luxueusement meublé, où derrière un imposant bureau se tenait assis un homme élégant, trépidant, terrifiant, en jaquette et souliers vernis. Son Excellence, le Diable.
Comment allez-vous, monsieur Clair? Approchez-vous. Un cigare?
Non, merci, je ne fume plus.
La fumée ne vous dérange pas, au moins?
Oh, vous plaisantez, Excellence. Je suis très touché que votre Excellence consente à me recevoir personnellement.
C'est un plaisir pour moi. Asseyez-vous.
Merci.
Je m'excuse de vous avoir fait attendre, mais je suis terriblement pris. On dirait que le monde entier se donne rendez-vous ici. Quand est-ce arrivé?
Mardi, Excellence, pour être précis, à 21h36min12s.
J'espère que vous n'avez pas trop souffert.
Pas du tout.
Vous avez essayé d'aller là-haut?
À quoi bon, après la vie que j'ai vécue? Je vous serai reconnaissant de m'expédier en bas, le plus tôt possible.
Très bien, si vous remplissez les conditions. Voulez-vous m'énumérer la liste de vos principaux crimes?
Mes crimes, Excellence? Mais je n'ai jamais commis de crimes. J'ai mené une mauvaise vie. Toute ma vie, voilà tout.
Des généralités sont insuffisantes pour vous envoyer en enfer. Je crains d'être forcé de vous faire attendre assez longtemps. Il me faut étudier votre dossier.
Oh, inutile. Si votre Excellence veut se donner la peine de m'écouter quelques minutes, elle sera vite convaincue. Je n'ai qu'à lui parler des femmes qui ont joué un rôle dans ma vie.
Ah, Don Juan?
Je le crains, Excellence. Oh, en petit, naturellement. Don Juan est bien chez vous, n'est-ce pas?
Évidemment. Et vous commencez à m'intéresser, Monsieur Clève. Mon Excellence est d'accord. Seulement, elle vous prie d'être bref. Les minutes comptent, même dans l'éternité.
Excellence, mon histoire sera brève, bien que je sois obligé de remonter à ma mère et à ma grand-mère. Toutes deux m'aimaient d'une manière excessive.
Oh, passons, monsieur Clair.
Bien, Excellence. Puis, il y eut Mary. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je m'entends encore dire à Mary, dans le parc, près des chevaux de bois, de la marchande de gauche.
Mary! Mary! Qu'est-ce que tu veux, Henri?
Tu veux voir ce que j'ai attrapé, dis.
Qu'est-ce que c'est, Henri?
C'est un papillon.
Oh!
Un beau papillon bleu.
En vrai?
Tu veux le voir?
Bien sûr!
Je le donne.
Oh, merci, Henri. Mais je ne peux pas accepter. Je ne suis pas de ces filles qui prennent tout aux garçons.
Mais tu ne me prends rien, Mary. Je le donne.
Oh, merci, Henri. Oh, le beau papillon bleu. Henri, je t'aime. Tu veux que je te donne un baiser?
Depuis ce temps-là, j'ai compris que pour triompher des femmes, il fallait être en mesure de leur offrir des quantités de petits cadeaux. Elles y sont particulièrement sensibles, n'est-ce pas, Excellence?
Ah oui, alors. La suite, Monsieur Clive, la suite.
À 15 ans, j'empruntai le smoking de mon père et 20 dollars, et j'emmenai dîner au Delmonico ma maîtresse de piano.
Votre maîtresse de piano?
Oui, Excellence.
À 15 ans?
Oui, excellent.
Bravo! Et vous êtes-vous amusé?
Oh, beaucoup, à la bonne heure. Malheureusement, j'ai bu trop de champagne et ma famille après l'histoire.
Ah, comment?
Par mon cousin Albert, impertinent, rapporteur, insupportable. Vous savez, Albert Clève.
Je me souviendrai de ce nom-là.
Merci, Excellence. Maintenant, j'en arrive à mon premier gros péché. Je le commis à 26 ans. C'était juste avant 1900. Excellence, mon cousin Albert avait décidé d'épouser la fille d'Estrabier de Chicago. On donnait une soirée en honneur d'Albert, de sa fiancée et de la famille de la jeune fille. L'Estrabier de Chicago, Excellence, n'était pas commode. Quand Albert parut avec sa fiancée, 100 paires d'yeux se tournèrent vers le couple. Albert s'avança du côté de l'orchestre.
Musique! Arrêtez, s'il vous plaît. J'ai l'honneur de vous présenter ma chère fiancée, Mademoiselle Strabier.
Chers amis, je suis très heureux d'être à New York et parmi vous. Votre accueil me touche infiniment. De tout cœur, merci.
Henri. Dis, cousin Henri. Comment trouves-tu Marthe?
Divine, cousin Albert.
Eh bien, Henri, je vais te présenter à ma fiancée.
Je vais t'en prier, Albert.
ma petite Marthe, je vous présente mon cousin Henri.
Oh, c'est vous ? Vous, cousin Henri ?
C'est vous, cousine Marthe ?
Eh oui, mon petit Henri, la voilà, cette fiancée de mes rêves. Imite mon exemple, marie-toi.
C'est peu probable. J'ai une chance extraordinaire à faire.
Ah bon, ça, tu as raison. J'ai une chance extraordinaire. Mais où est Monsieur Strabier ? Monsieur Strabier ! Monsieur Strabier ! Excusez-moi un instant, mais je dois aller voir ce que devient mon futur beau-père. En attendant, Henri, fais danser ma fiancée.
Mademoiselle, voulez-vous me faire l'honneur de danser avec moi ?
Merci, monsieur.
Alors ça, mademoiselle, je m'attendais à vous trouver ici, vous.
Et moi, alors, monsieur. Je regrette n'avoir pas parlé à Albert de notre rencontre. J'aurais dû lui dire que je vous connaissais.
Ne craignez rien, cela reste entre nous. Je... Dansons, voulez-vous. Oui, excellence. Il y avait en effet un secret entre nous. Figurez-vous que la veille, je me trouvais dans une librairie à la recherche d'une vieille édition. Quand subitement, je vis entrer l'être le plus exquis de la Terre. Elle, Excellence. Elle. Marthe. Ce fut un véritable coup de foudre. Elle était si jolie, si fascinante, si éblouissante. En un clin d'œil, je me débarrassais de mon chapeau et de mon pardessus. Je m'avançais vers elle et je me mis à jouer le rôle du vendeur.
Il n'y a pas de vendeuse ici.
Vous désirez, mademoiselle ?
Oh, rien. Vous n'avez pas de vendeuse ici ?
Non, pourquoi ?
Parce que...
Est-ce que je ne peux pas vous trouver le livre que vous cherchez, mademoiselle ?
C'est-à-dire que...
Voyons, mademoiselle, un peu de confiance. Quel livre désirez-vous ?
Eh bien, le livre s'appelle... Oh, tenez, le voici.
Conseil à une jeune mariée. C'est celui-là.
Oui, monsieur. C'est ça. Conseil à une jeune mariée.
Excusez-moi, j'aurais dû dire madame.
Non, je suis encore jeune fille.
Ah, plus pour longtemps, alors.
Plus pour très longtemps. Combien ce livre ?
Peu importe. N'achetez pas ce livre.
Mais monsieur...
Écoutez, mademoiselle, croyez-vous au coup de foudre ? Je vous aime.
Mais vous êtes fou, monsieur. Je suis venu ici pour acheter un livre et je rencontre un fou.
Voilà le secret qu'il y avait entre nous, Excellence. Marthe était la princesse de conte de fées que j'avais rencontrée, et elle allait épouser mon cousin Albert. Pour une coïncidence diabolique, ça...
Ah, monsieur Blaise.
Excellence, je suis conquis. Du reste, à vrai dire, j'étais aux anges. Déjà, je faisais ma cour à Marthe, tandis que la plus jolie vase du monde nous emportait.
Eh bien, monsieur.
Je vous aime.
Oh, laissez-moi. Oh, oh, Henri, vous m'embrassez.
Oui, c'est merveilleux.
Henri, je vous dévore. Vous ne me connaissez pas du tout. Même Albert, mon fiancé, ne s'est jamais permis
de vous embrasser.
Mais si, voyons, pourquoi pas. Non, pas comme ça.
Comment alors ?
Oh, je vous déteste.
Sortez, mon regard. Je vous adore. Je l'ai ici, dans le petit salon à côté. Dites-moi, vous aimez votre fiancé ? Vous aimez Albert ?
Puisque je l'épouse.
Vous l'aimez vraiment ?
Je ferai de mon mieux pour être une bonne épouse. Et en voilà assez. Une seule question de plus, et je m'en vais.
Marthe, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre qu'un ange comme vous puisse épouser, et surtout aimer, un homme comme Albert. Pourquoi vous mariez-vous avec lui ? Écoutez, vous allez vous marier, mais pas avec Albert. Et vous n'aurez même pas à changer les initiales de votre trousseau.
Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire ?
Vous allez vous marier avec moi.
Avec vous ? Mais nous ne sommes pas même fiancés.
Et quelques heures plus tard, Excellence, j'épousais Marthe.
Marthe, que vous aviez volée à votre cousin Albert.
C'était par amour, Excellence.
Bien. Ensuite ?
Dans les 10 années qui suivirent, je continuai à aimer ma femme. Mais c'est très curieux. Je ne savais pas résister aux tentations. Je succombais, Excellence. Je succombais. Or, comprenez-moi, de simples nuits sans lendemain. Et comme d'autre part, je ne cessais d'être aux petits soins pour Marthe, j'étais persuadé qu'elle ignorait mes peccadilles.
Peccadilles, c'est une manière de parler.
Et alors, qu'arriva-t-il ? Il arrivait qu'un soir, quelques jours avant l'anniversaire de nos 10 ans de mariage, en rentrant à la maison, dans le salon, notre fils Jacques étudiait son piano.
Bonjour, papa.
Bonjour, mon petit Jacques. Où est ta maîtresse de piano ?
Oh, papa, mon professeur, c'est un monsieur.
Tiens, quelle drôle d'idée.
C'est une idée de maman. Dis, papa, quel âge as-tu ?
Moi ? Près de 40 ans, si mes souvenirs sont exacts.
C'est vieux, hein ?
Vieux ? Je n'y avais jamais réfléchi jusqu'à 13 ans. Mais non, ça n'est pas vieux. 40 ans, c'est le bel âge pour un homme. Va, travaille ton piano.
Papa, quand tu avais 9 ans, tu étais comme moi ?
Non, mon petit, moi j'étais très obéissant.
Tu ne disais jamais de mensonge ?
Jamais, mon petit. Je ne disais pas toujours la vérité, mais c'est très différent. Tu comprendras ça plus tard. Dis-moi, où est ta mère ?
Maman a laissé un mot pour toi, dans cette enveloppe sur la table.
Merci. Ah ! Comme ta mère a une jolie écriture. Voyons. Henri, je pars. N'essaie pas de me rejoindre, je te ferai connaître mes décisions pour Jacques. Adieu, Marc. Excellence, Marthe m'avait quitté. Moi. Pendant toutes ces années, elle m'avait laissé commettre mes infidélités sans protester, et brusquement, sans dire ni pourquoi ni comment, elle s'en allait. Je ne comprenais pas. Comment vouliez-vous que je comprenne ? Je me doutais aussitôt qu'elle était retournée chez ses parents, et je n'avais qu'une idée, la rejoindre. Le lendemain, je me glissais dans la propriété de mes beaux-parents. Suivez-moi, Excellence. Je traverse le jardin. J'entre dans la maison et par le petit escalier, sur la pointe des pieds, je monte jusqu'à la chambre de ma femme, le cœur battant. J'ouvre la porte. Marthe.
Henri ? Henri, que veux-tu ?
Chérie. Marthe, comment as-tu pu partir ainsi ? Te rends-tu compte de ce que j'ai pu souffrir ? Ma bien-aimée.
Tu as fini ?
Non, je commence.
Inutile, Henri.
C'est entendu, j'ai fait ton malheur.
Je t'en prie.
Mais tout de même, nous avons été si heureux ensemble.
C'est vrai, très heureux.
Marthe, te souviens-tu, il y a 10 ans aujourd'hui, 10 ans nous nous marions. Il y a 10 ans à la même heure, je t'enlevais. Je t'aimais follement. Mais tu peux me croire, Marthe. Pas plus que maintenant.
Mon Dieu, comme c'est triste pour une femme de ne plus pouvoir aimer son mari le soir de leur 10e anniversaire de mariage. Surtout quand il lui dit de si jolies choses. Mais vois-tu, Henri, tu es peut-être un homme capable de constance, pas de fidélité. Non, la vie ensemble est désormais impossible. Henri, nous allons divorcer.
Et notre fils ?
Le petit Jacques, j'en demanderai la garde.
Oui, tu as raison, il vaut mieux l'éloigner de moi. C'est plus prudent.
Sais-tu ce qu'il a fait l'autre jour, ton fils ?
Qu'est-ce qu'il a fait ?
Il avait acheté une boîte de chocolat pour une petite fille.
C'est charmant, ou est-ce mal ?
Mais il ne l'a pas donnée à celle pour qui il l'avait acheté.
Déjà ?
Et quand la première petite fille s'en est aperçue, ça a fait du joli.
S'est-il sorti d'affaire tout seul ?
De main de maître. La petite fille l'aime bien mieux qu'avant.
C'est magnifique. Elle a pardonné au fils. Fais comme elle. Pardonne au père.
Ce n'est pas la même chose.
Mais si, c'est la même chose. Tout de même, je suis ton mari. Un mari repentant. Un mari suppliant qui t'adore, Marthe. Désormais, je n'achèterai plus de chocolat que pour toi. Je te le jure.
Monstre. Laisse-moi. Je ne sais plus où j'en suis, moi.
Chérie,
Rentrons chez nous.
Mais que diraient mes parents?
On leur enverra un télégramme.
Tu vas m'enlever en pleine nuit?
Oui, comme je t'ai enlevé il y a 10 ans. Ma petite princesse. Connais-tu une autre femme qui t'était enlevée 2 fois par le même homme?
Après, monsieur Clive. Après, excellence, j'aurais dû enfin être sage. Je le sais. J'aimais ma femme m'aimait, elle était charmante, exquise. Mais c'était plus fort que moi, je continuais. Oui, je continuais d'être infidèle. C'est terrible. Les années passèrent, et puis, il m'arriva l'histoire la plus désagréable qui puisse survenir à un homme habitué à des succès féminins.
Monsieur Clive, confessez-vous.
Votre Excellence, vous utilisez des termes d'en haut.
Ils vous amèneront peut-être en bas, mon ami.
Allons, allons, confessez-vous. Eh bien, voici, Excellence. Au Music Hall, j'avais vu une ravissante fille descendre les marches d'un escalier. Elle s'appelait Peggy Nash. Naturellement, je me précipitais dans sa loge.
Prenez la peine de vous asseoir, Monsieur Clive.
Bonsoir, Miss Nash. Je vous remercie de vouloir bien me recevoir dans votre loge.
C'est moi qui vous remercie. Pour vos très belles roses.
Miss Nash, quand je vous ai vu descendre cet escalier au dernier tableau, j'ai tout de suite compris.
Qu'avez-vous compris, Monsieur Clive?
Que vous étiez la femme de mes rêves.
Comme c'est gentil. Et quelle belle lettre avec vos fleurs.
Vous les avez aimées, mes fleurs?
Beaucoup. Elles ont le charme mélancolique et la douceur des choses du passé.
Ça, ce n'est pas très gentil.
Ne vous vexez pas. Chaque génération a son temps. Et son beau temps, Monsieur Clive.
Peggy, appelez-moi Henri.
Monsieur Clive, ce n'est pas possible.
Pourquoi?
Regardez cette photo. Un beau garçon, n'est-ce pas?
Mais c'est Jacques, mon fils.
Oui, votre fils.
Oh, je vois. Je vous demande pardon.
Bonsoir, Monsieur Clay.
Dites-moi, Miss Nash, si vous ne me connaissiez pas et que vous me rencontriez au restaurant, par exemple, quel âge me donneriez-vous?
60 ans.
Ah.
Et quel âge avez-vous, Monsieur Clay?
60 ans.
Vous êtes parti sans demander votre reste.
C'est le cas de le dire, Excellence.
Quelle humiliation, Monsieur Clive. Quelle dure humiliation pour un don Juan.
À partir de ce jour-là, je me suis senti vieux, Excellence. Vous comprenez? Vieux. Et je suis resté seul, tout seul.
Mais votre femme?
Marthe, Excellence, était morte. Oui, elle s'en était allée doucement, entre deux sourires et deux regrets. J'avais perdu la seule femme que j'aurais dû vraiment aimer.
Tardive parole, Monsieur Clive.
D'autant plus tardive, Excellence, que malgré mon sincère remords, je péchais encore.
Comment?
Ah, par exemple. Involontairement, cette fois, je vous le jure.
Vous ne jurez pas, Monsieur Clive, nous n'aimons pas ça, même ici, en bas.
Quand un homme vieillit, sa pharmacie augmente. Mes médicaments occupaient toute une armoire. Il me fallait même une infirmière. Et oui. Elle arriva un soir après le dîner. Excellence, qu'elle était belle, mon infirmière. Qu'elle était belle. Plus je la regardais, plus je me sentais envahi par une sorte de ravissement, une sorte de bonheur surnaturel, d'extase. Elle s'approcha de moi et me dit d'une voix d'ange:
Monsieur Clive, fermez les yeux et vous vous croirez en paradis.
Je fermais les yeux pour lui faire plaisir, naturellement, à cet ange. Elle posa sa petite main si blanche, si douce, sur mon front, et je me crus en effet dans l'autre monde. En fait, Excellence, sans m'en douter, j'étais passé de vie à trépas.
Oui, c'est ainsi que, d'après la fiche de notre garçon d'ascenseur, Lucifer Junior, vous n'avez pas demandé à aller en haut, mais à venir en bas, chez moi, directement. Eh bien, Monsieur Clèves, je ne sais pas si j'ai le droit. Il faut que je me renseigne à la comptabilité. Une seconde. Allô? Le camp Henri Clèves. Oui, où en est le comptable?
Quoi? Comment? Ça ne fait pas le compte?
Ah, oui, je comprends. Eh bien, Monsieur Clèves, veuillez vous adresser ailleurs.
Pourtant, Excellence, il est le précédent de Don Juan. Vous l'avez bien gardé, celui-là. C'est un précédent irréfutable, irrécusable. J'ai péché comme lui. Comme lui, je dois expier.
Oui, Monsieur Clèves, mais tout change, même chez nous. Don Juan, c'était le bon temps. Nous avions de la place et du temps de libre. On pouvait rôtir les maris infidèles à petit feu. Depuis, il s'est passé bien des choses, et vous pensez si nous sommes occupés. Monsieur Clèves, veuillez vous adresser ailleurs.
Vous voulez dire en haut?
Oui, oui, je veux dire en haut, près de votre femme. Elle a dû plaider votre cause.
Vous croyez?
Mais bien sûr, Monsieur Clèves. D'une part, mon comptable n'arrive pas au total suffisance qui vous concerne. Et d'autre part, on me signale du brouillage céleste. Monsieur Clèves, vous avez bien de la chance.
L'ascenseur est ici, Excellence.
Prenez-le, Monsieur Clèves.
Adieu, Excellence. Et moi qui me croyais Don Juan.
Tout change, Monsieur Clèves. Les regrets sont pour moi.
En bas, Excellence.
Non. Conduisez Monsieur Clèves. Oh. Qui m'appelle?
M'entends-tu?
Oh, c'est toi, Marthe. Marthe.
J'ai plaidé ta cause. Bien. Veux-tu m'aimer comme autrefois?
Oh, Marthe, toute ma vie maintenant.
Oui. Maintenant, tu pourras m'aimer pendant toute l'éternité.
L'éternité? Ah oui, l'éternité.
Vous avez entendu l'adaptation radiophonique du film Le ciel peut attendre, avec Jean Tierney, dans le rôle qu'elle a créé à l'écran, Victor Francen et Marcel Dalliot. Ce programme vous a été présenté de Hollywood par la Voix de l'Amérique.
Vous écoutez la Cinémathèque de France Culture. Aujourd'hui, Ernst Lubitsch. Rendez-vous 1946. Alors que la grande comédie hollywoodienne de l'époque a généralement pour cadre la haute bourgeoisie américaine, Rendez-vous, adapté d'une pièce hongroise, Parfumerie, met en scène le monde des employés. Le film ne connaît pas un grand succès à sa sortie en 1940, mais il est redécouvert dans les années 80. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des films majeurs de Lubitsch. À Budapest, Alfred Kralik, employé à la maroquinerie Matouchek et compagnie, vit une histoire d'amour par correspondance avec une femme qu'il n'a jamais vue, Clara Novak. Cette dernière est bientôt engagée à la boutique. Au générique de cette adaptation radiophonique, on retrouve Jean Tierney, mais aussi Charles Deschamps et Félix Bressard, dans le rôle de Pirovitch qu'il a créé à l'écran.
La Voix de l'Amérique a le plaisir de vous présenter une adaptation radiophonique du film Metro-Goldwyn-Mayer, Rendez-vous, mise en scène par Ernst Lubitsch. Dans l'adaptation radiophonique française de Rendez-vous, vous entendrez Miss Jean Tierney, qui est devenue l'une des grandes stars de Hollywood depuis 1940. En plus du jeune héros de l'histoire et de Miss Jean Tierney, vous allez entendre également deux acteurs connus à Paris comme à Hollywood. Ce sont Charles Deschamps et Félix Bressard, qui va rejouer pour vous le personnage qu'il a créé à l'écran.
Je m'appelle Pirovitch. Excusez-moi, mais ce n'est pas de ma faute. Je suis second vendeur à la maroquinerie Matouchek et compagnie. Je suis second vendeur depuis 35 ans et je crois que je le resterai toute ma vie. Pour être premier vendeur, il faut être comme mon jeune ami Kralik, vous savez. Il faut avoir de l'initiative, ah oui. Il faut... Mais j'y pense, c'est toute une histoire. Vous ne le connaissez pas? Mais il y a une maroquinerie comme la nôtre dans chaque ville du monde. Vous passez devant la vitrine constamment. Arrêtez-vous. Venez nous voir. Ce matin, il est 9h. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Nous sommes déjà tous au magasin. Notre patron, M. Matouchek, va arriver dans un instant. Il est précis comme une horloge. Ah, oh, c'est terrible.
Ouais, le patron, gardez-vous!
Bonjour, Polo. Avant de partir en course, instique la plaque de cuivre sur ta casquette. Matouchek et compagnie ne brillent pas assez.
Bien, monsieur Matouchek.
Kralik.
Bonjour, monsieur Matouchek.
Kralik, refaites la vitrine. Nous sommes dans le crocodile déjà depuis une semaine.
Bien, monsieur Matouchek.
Madame Flora.
Oui, monsieur Matouchek.
Je veux vérifier la caisse dans un instant. Mademoiselle Léon.
Oui, monsieur Matouchek.
Ôtez cette pèlerine. Est-ce qu'une vendeuse porte des renards argentés dans un magasin? Occupez-vous de ses clients, mademoiselle Léon.
Bien, monsieur Matouchek.
Enfin, où est le personnel ce matin? Où est monsieur Pirovitch?
Avec monsieur Kralik, monsieur Matouchek. Ils refont déjà la vitrine.
Ouais. Et où est monsieur Vadash? Ce n'est pas la peine d'avoir plusieurs vendeurs.
Me voici, monsieur Matouchek, à vos ordres.
Monsieur Vadash, j'aime la ponctualité.
Je m'excuse, monsieur Matouchek. Je m'étais simplement permis de répondre au téléphone qui sonnait dans votre bureau. Madame Matouchek vous demande de lui envoyer l'enveloppe qu'elle vous a demandée.
Vous avez bien fait, Vadash. Mais maintenant, occupez-vous de ces clientes qui attendent. Madame Flora, apportez-moi l'encaisse d'hier. Polo, j'ai besoin de toi.
Hé, monsieur Kralik, vous êtes toujours dans la vitrine? Il vaudrait mieux qu'elle soit un chef-d'œuvre, parce que je ne sais pas ce qu'il a mangé hier, le patron. Mais il n'est pas commode ce matin.
Demande-le à monsieur Kralik. Il doit le savoir, puisqu'il a dîné hier soir chez monsieur et madame Matouchek.
Non, mais de quoi je me mêle, Polo?
Ça va, monsieur Kralik, je file. Je commence du reste par madame Matouchek. Il y a des sous dans l'enveloppe, comme chaque matin depuis une semaine. Pour une femme coûteuse, c'est une femme coûteuse. Maintenant, au boulot.
Dis donc, Kralik.
Oui, Pirovitch.
À propos de ton dîner chez le patron, comment as-tu trouvé sa femme?
Je n'ai pas fait attention parce que je vis une histoire d'amour bouleversante.
Toi? Kralik?
Oui, par correspondance.
Par correspondance?
Écoute, mon cœur tremblait comme une feuille et vous étiez là, étendu dans la boîte postale 237. Je vous ai sorti de votre enveloppe et je vous ai dévoré de la première à la dernière ligne, ô mon doux ami.
Oh, qu'est-ce que c'est que cette lettre, hein? Tu es malade?
Pirovitch, je vais t'expliquer. Un dimanche, je me promenais parmi les petites annonces d'un journal et une petite annonce m'a frappé. Jeune fille désire correspondre avec jeune homme doué. Raison, cherche son âme. Répondre à divine amitié, boîte postale 237.
Oh. Et il y a combien de temps que ta divine amitié dure?
Mais j'en suis à notre quatrième lettre. Oh, celle qui les écrit n'était pas une femme comme les autres. Écoute encore, Pirovitch.
Oui, oui, oui.
Pour l'instant, seules nos âmes échangent leurs secrets et rien d'autre ne doit les troubler.
Cette fille a du style.
Et ce qu'elle m'a écrit hier? La vie quotidienne n'est pas facile, mais il serait ridicule de perdre un instant à se poser des questions sur la manière dont nous arrivons chacun à résoudre les misérables questions d'argent.
C'est une intellectuelle qui a du tact.
Bien plus que ça, mon vieux Pirovitch. Elle a du cœur et le sens des réalités.
Charmante. Et après?
Je ne sais pas, Pirovitch. Je ne sais pas.
Crois-moi. Prends ton temps, Kralik. Prends ton temps. Crois-en un homme marié qui a 8 enfants. Oh, qu'est-ce que tu dis? 9 enfants. Oui.
Eh ben, Kralik, Pirovitch, elle est finie, cette vitrine?
Oui, patron.
Vous me demandez, monsieur Matouchek?
Donnez-moi votre avis, Kralik. La maison Miklas Frères me propose 12 douzaines de boîtes de cigares. Qu'en pensez-vous, Kralik? Il y a là une trouvaille. Hein, ce sont des boîtes de cigarettes musicales. Qu'en dites-vous, Kralik?
Il n'en est pas question.
Il n'en est pas question? Vous êtes un garçon inouï, Kralik. Vous savez tout, vous décidez tout, comme ça, en un clin d'œil. Immédiatement, ce n'est pas question. On va bien voir. Pirovitch!
Monsieur Pirovitch se lave les mains, monsieur Matouchek.
Ah, ça fait 35 ans que monsieur Pirovitch se lave les mains quand j'ai besoin de lui. Ah, et vous, Vadash, que pensez-vous de ces boîtes à cigarettes? Et surtout, parlez librement.
Monsieur Matouchek, c'est tout simplement sensationnel.
Bon, voyons. Et vous, mademoiselle Léon, donnez votre avis.
Monsieur Matouchek, nos clientes en seront folles.
Bon, voyons. Alors, maintenant, monsieur Kralik, donnez-moi une raison contre ces boîtes.
Vous ouvrez la boîte 20 fois, et 20 fois, vous devez entendre... C'est à vous faire passer l'envie de fumer pour le restant de vos jours. Et puis, c'est du cuir imitation. C'est de l'article très bon marché, aucun usage.
C'est à moi de décider, monsieur Kralik, si la qualité est bonne ou mauvaise. Veuillez vous occuper uniquement de la vente.
Allô?
Et laissez-moi m'occuper des achats.
Monsieur Matouchek, la maison Miklas Frères vous demande au téléphone.
Ah, passez-le moi. La maison Miklas Frères. Au sujet de la commande, oui. Oui, les boîtes musicales. Annulez ma commande. Pourquoi? Oh, entendre cette musiquette 20 fois par jour, mais il n'en est pas question.
Bonjour, mademoiselle.
Bonjour, monsieur.
Vous désirez, mademoiselle, une de nos dernières créations? C'est sac à main.
Non, merci, monsieur. Je ne suis pas venue pour un sac à main.
Et nous avons beaucoup d'autres nouveautés, vous savez.
Je ne veux rien acheter. Est-ce que je pourrais voir votre directeur?
Monsieur Matouchek? Oh, monsieur, il est très occupé. Ne puis-je le remplacer? Je suis moi-même premier vendeur chez Matouchek et compagnie.
Vous annoncez des soldes spéciales, n'est-ce pas?
Oui.
Vous allez avoir beaucoup de clients.
Oh, certainement.
Il vous faudra du personnel supplémentaire.
Mais j'en suis persuadé.
Dans ce cas, monsieur, pourriez-vous m'engager? Je suis à la recherche d'un emploi.
Oh, ça alors. Non, vous ne pouviez pas me le dire tout de suite.
Voyons. Excusez-moi, de question en question, je ne m'en sortais plus. Est-ce que vous pouvez me prendre?
Je le voudrais bien, mais monsieur Matouchek ne voudra rien savoir.
Il y a une minute que vous me disiez que vous allez engager du personnel.
Oh, c'était une manière de parler, un argument de vente. Je sais déjà ce que M. Matouchek va vous dire. Il va vous dire, j'en suis...
Si, M. Kralik, vous savez déjà ce que je vais dire. Vous lisez mes pensées à l'avance. Je suis M. Matouchek, mademoiselle, et je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis persuadé que Matouchek et compagnie peuvent vous donner satisfaction.
Monsieur, je suis à la recherche d'un emploi.
Je regrette, nous n'avons pas besoin de vendeuse, nous avons déjà mademoiselle Léon.
Vous me demandez, monsieur?
Mademoiselle Léon, occupez-vous de votre cliente. Non, je regrette, nous n'avons besoin de personne.
Je regrette beaucoup, madame. J'espère que la prochaine fois...
Monsieur Matouchek, vous voyez votre cliente là-bas? Elle s'en va sans rien acheter. Laissez-moi essayer.
Mais non, madame. Ne vous en allez pas. Nous avons certainement ce que vous désirez. Cette boîte à cigarettes, par exemple. On ouvre et...
Ah non, non. Je fume 20 cigarettes par jour. Entendre ça 20 fois par jour, c'est terre, ça, c'en est trop.
Où avais-je la tête, madame? Ce n'est pas une boîte à cigarettes, c'est une bonbonnière.
Une bonbonnière?
Chaque fois que nous prenons un chocolat de trop, la petite musique se met à jouer. Et elle nous dit, la petite musique, souviens-toi, souviens-toi, un chocolat de plus et tu perds ta ligne.
Ah, oh, parfait, parfait. Un chocolat de plus et tu perds ta ligne. Mais c'est un cadeau à faire à sa meilleure amie.
C'est ce que je pensais, madame. À qui devons-nous adresser la bonbonnière à musique?
La vicomtesse Adrian de Ferguson. C'est un véritable service que je lui rends.
Je n'en doute pas. Je vous remercie, madame.
Monsieur Kralik.
Tous mes compliments, mademoiselle.
Voulez-vous faire faire le petit paquet de madame? Voyez qu'est-ce.
Bien vendu, mademoiselle. Comment vous appelez-vous?
Mademoiselle Clara Novak, monsieur Matuchek.
Eh bien, je vous engage, mademoiselle Clara. Vous commencerez dès demain matin à 9h précise. Monsieur Kralik, notre premier vendeur, vous donnera les instructions nécessaires.
Mademoiselle Clara ne me carré guère en avoir besoin.
Trop aimable, monsieur Kralik. À demain matin.
Monsieur Matuchek, c'est de nouveau la maison Miklas au téléphone.
Merci, mademoiselle Léon. Allô? Allô, Miklas frère? Oui. Oui, vous faites bien de rappeler. Et j'ai changé d'avis pour les boîtes musicales. Ah, on entend dans cette musique 20 fois par jour, mais c'est délicieux. Je la prends.
Monsieur Kralik, que dois-je faire?
Mademoiselle Clara, ça fait une semaine que vous êtes ici. Je ne devrais pas avoir besoin de vous dire qu'aujourd'hui, nous contrôlons le stock dans l'arrière-boutique.
Bien, monsieur.
Dis donc, Pirovitch, tu veux me remplacer pendant que j'irai au stock?
Oh, Kralik, pourquoi si tôt? Quelque chose qui ne va pas?
Le patron est d'une humeur de chien. Depuis qu'il m'a invité chez lui, il me cherche noise. Ah, ça ne m'a pas réussi. Mais ça se tassera. Et puis j'ai autre chose. Dis donc, Pirovitch, ça coûte très cher d'être marié.
Tu veux te marier? Si tu avais 8 enfants, qu'est-ce que je dis, 9 enfants comme moi.
Tu te souviens de la jeune fille avec qui je corresponds?
Quoi? La divine amitié? La boîte postale 237? Ta correspondante mystérieuse?
Oui. Eh bien, c'est le grand amour. Oh. Tu n'en reviens pas, hein?
Oh, dis-moi, elle est jolie, hein?
Naturellement.
Elle t'a envoyé sa photo?
Non.
Alors, comment sais-tu qu'elle est jolie, hein?
Par son écriture.
Ah, son écriture. C'est beau d'être graphologue, mais à ce point-là...
Monsieur Kralik. Vous venez? Je vous attends pour le stock.
Mademoiselle Clara, 5 minutes.
Monsieur Kralik, nous sommes très occupés au magasin.
Je sais que vous êtes une très bonne vendeuse, mademoiselle Clara. Ce n'est pas une raison pour que nous ne vérifions pas ensemble les stocks. Il faut voir ce qu'il nous reste. Voulez-vous monter sur l'échelle?
Monsieur Kralik.
Pour qui me prenez-vous? Dites donc, pendant que j'y pense, je vous serais reconnaissant d'éviter de porter une blouse aussi voyante que celle que vous avez arborée hier. Vert, à petits pois jaunes.
Je vous demande pardon. Jaune, à petits pois verts. Et elle est très chic, cette blouse. Vous feriez mieux de penser à vos cravates. Et puis, ça ne vous regarde pas, ce que je porte.
Je suis désolé, mademoiselle Clara, mais monsieur Matuchek n'est pas de cet avis. Il trouve que ça me regarde.
Vous avez dit à monsieur Matuchek que depuis 8 jours, j'ai vendu à moi seul plus que tous les autres vendeurs.
Je le lui ai dit.
Et qu'a-t-il répondu?
Il a répondu qu'il désirait que vous portiez des blouses moins voyantes.
Ah!
Oh, comprenez-moi bien. Moi, ce que vous portez, ça m'est égal. J'ai assez de mes soucis.
C'est bien, monsieur Kralik. Dites à monsieur Matuchek que dans ces conditions, je vous téléphonerai chaque matin pour vous dire ce que j'entends mettre ou ne pas mettre.
Oh, mais vous devenez impossible, mademoiselle Clara!
Ne m'interromps pas, ma chérie. Oui. Écoute, déjà hier, oui, je t'ai donné une somme importante. Enfin, depuis 20 ans que nous sommes mariés, je t'ai jamais rien refusé. Bon, enfin, chaque jour. Bon, oui, mais docteur, mais calme-toi, ma chérie, oui. Eh bien, entendu, là. Je vais te donner une enveloppe à Polo qui va te la porter tout de suite. Voilà ce qui m'arrive. À moi, Matuchek. Matuchek et compagnie, après 25 ans de mariage. Ma femme se commet avec des gigolos. Polo!
Oui, monsieur Matuchek?
Tu m'as apporté une enveloppe comme hier.
Bien, monsieur.
Pirovitch?
Oui, Kralik.
Tu te rappelles? Eh bien, ça y est. Je la rencontre ce soir.
Ta belle inconnue?
Oui, elle m'a répondu. Ce soir, nous avons rendez-vous.
Où?
Au Café des Roses Blanches.
Tu vas apporter une petite rose blanche à la boutonnière pour qu'elle te reconnaisse?
Oui. Comment le sais-tu?
Et elle?
Elle aussi. Une rose blanche posée sur un livre ouvert. Dis-moi, Pirovitch, j'ai peur qu'elle ne soit déçue. J'ai un peu exagéré dans mes lettres. Tu sais, on finit par ne plus se rendre compte. Après tout, je ne suis que premier vendeur à la maroquinerie. Matuchek.
Elle n'est peut-être elle aussi qu'une petite jeune fille comme les autres.
Eh bien, ça me suffirait, une petite jeune fille comme les autres. Mais elle n'est pas comme les autres.
Hey!
Oui, monsieur Matuchek.
Vous avez vu cette vitrine? Non, mais est-ce que vous vous moquez de moi?
Mais monsieur Matuchek...
Il n'y a pas de monsieur Matuchek qui tienne, monsieur Kralik.
Tu croyais avoir un employé intelligent, mais pas une mazette.
Mais monsieur Matouchet...
Vous allez tous rester ce soir après la fermeture du magasin.
Quoi?
Et nous referons les vitrines. Tous.
Oh. Vous
avez compris? Je veux une vitrine étincelante. Prévenez tout le monde.
Il exagère, comme toujours.
Justement, ce soir, non, mais je ne peux pas. Je donnerai plutôt ma démission.
Oh, calme-toi, Kralik.
Mais ce soir, Pirovitch, je la rencontre. C'est le soir de ma vie, mon...
Monsieur Kralik.
Oui, mademoiselle Clara.
Monsieur Kralik, vous êtes un homme d'ordre et de goût.
Qu'est-ce qui vous prend, mademoiselle Clara?
Oui, oui, monsieur Kralik. Depuis que je suis ici, nous ne sommes pas toujours du même avis, mais c'est inévitable. Vous avez des qualités professionnelles étonnantes.
Je suis heureux qu'après un mois, vous reconnaissiez les qualités que M. Matouchek veut bien me prêter.
M. Matouchek a toujours raison.
Eh bien, à propos de M. Matouchek, il nous demande de rester ce soir après la fermeture. Nous devons tous refaire la vitrine.
Ce soir? Oh non, pas ce soir.
Eh bien, mademoiselle Clara, mais qu'est-ce qui vous prend?
Ce soir, non, ce n'est pas possible. Monsieur Kralik, je voulais justement vous demander de me laisser partir ce soir avant la fermeture.
Oh, je comprends, mademoiselle Clara, pourquoi vous étiez si aimable. Vous vous fichiez de moi.
Ne m'en veuillez pas. J'ai un rendez-vous très important. Je ne peux pas le manquer.
Alors, bah, qu'est-ce qu'il y a encore, monsieur Kralik?
Monsieur Matouchek, vous me rendriez un très grand service en me laissant partir à l'heure ce soir.
Ce soir? Au fond. Bon, nous pouvons peut-être nous passer de vous, oui.
Oh, merci, merci, merci.
Monsieur Matouchek.
Quoi? Vous aussi, Kralik?
Mais il se trouve que ce soir...
Non, il n'y a pas de ce soir qui tienne. Et puis ça suffit, j'en ai assez.
Mais je ne comprends pas ce qui se passe.
Oui, ben moi, je ne comprends que trop. Si madame Matouchek était ici, vous resteriez...
Oh, voyons, monsieur
Matouchek. Assez! J'en ai par-dessus la tête. Ah, si, mon ami, vous ne voulez pas rester ce soir, eh bien, faites comme il vous plaira. Je ne vous retiens pas. Vous n'avez même pas besoin d'en venir demain. Ni jamais. Oui, monsieur Kralik, je vous mets à la porte.
Oh. Oh. C'est la vie, mes amis.
On vous regrettera, monsieur Kralik.
Merci, Léon. Au revoir, mon vieux Pirovitch.
Ah, ça alors, je ne sais pas quoi dire. Il exagère, comme toujours.
Monsieur Kralik, c'est vraiment désolant. Ah, pas de chance. J'ai toujours admiré votre manière de convaincre le client. Dommage que M. Matouchek ne sache pas l'apprécier. Je me demande ce que nous allons devenir sans vous.
Merci, Vadash. Je ne fais pas de bile pour vous. Vous vous en tirerez toujours.
Allô?
M. Matouchek?
Oui.
Ici Kane de l'agence des recherches privées.
Ah oui, Monsieur Kane. Alors?
Monsieur Matouchek, vos doutes étaient malheureusement fondés. Madame Matouchek est coupable du délit d'adultère.
Madame Matouchek? Ne me dites rien au téléphone. Venez tout de suite. Je vais renvoyer tout le monde. Nous ferons la vitrine demain. Vous pouvez rentrer. Polo, tu fermeras le magasin, tu me rapporteras les clés. N'hésitez pas, Monsieur Kane. Dites-moi toute la vérité.
Hélas, Monsieur Matouchek, cela ne fait pas de doute. Madame Matouchek vous trompe, et elle vous trompe chaque jour. Et de plus, avec l'un de vos employés.
Oui. Je m'en doutais. Mon meilleur employé. C'est pourquoi je l'ai flanqué à la porte au premier prétexte. Après tout ce que j'ai fait pour lui. Mais pourquoi lui? Pourquoi Kralik?
Je vous demande pardon, mais vous vous trompez. Il s'agit d'un employé nommé Vadash.
Vadash? Ça n'est... Mais alors... Oh...
Monsieur Matouchek, qu'est-ce que vous avez?
Je vous en prie, laissez-moi. Laissez-moi. Laissez-moi.
Monsieur Matouchek? Monsieur Matouchek, où êtes-vous? Tout le monde est parti, j'ai baissé le rideau de fer. Je n'ai plus qu'à vous rendre les clés. Monsieur! Monsieur Matouchek! Non, monsieur Matouchek! Non, monsieur! Ne tirez pas! Ne tirez pas!
Kralik, pourquoi es-tu venu jusqu'ici si tu as peur de la voir, ta correspondante inconnue, hein?
Peur, non, Pirovitch. Mais que puis-je lui offrir maintenant? Un cœur sans situation?
Allons, du courage, Kralik. Voilà, nous y sommes, au Café des Roses. Regardons au moins par la fenêtre. si ta belle inconnue elle est.
Regarde pour moi, Pirovitch. Je vais fermer les yeux. Tu me diras tout. Parle, Pirovitch. Parle.
Oh oui, bon.
Que vois-tu?
Je vois la grosse Madame Smetana.
Oh, Pirovitch.
Ah.
Tu l'as trouvée? Elle est là?
Non, j'admirais la pianiste de l'orchestre. Elle a endoitée.
Oh, Pirovitch.
Attends une seconde. Je crois que je la vois.
Elle?
Oui, oui, près de la baie. Oui, il y a un livre ouvert.
Oui, un livre ouvert?
Et la petite rose blanche sur le livre.
Ah, mon Dieu!
Je ne peux pas bien distinguer son visage. Ah, la voilà qui se penche.
Alors, tu peux la voir?
Oui, oui.
Dis-moi, elle est jolie?
Très jolie.
Très jolie?
Je trouve qu'elle ressemble et qu'elle a un peu le teint de Mademoiselle Clara.
Mademoiselle Clara? Quoi, Mademoiselle Clara du magasin?
Écoute, Kralik, tu dois admettre que Mademoiselle Clara est une très jolie fille, avec un charme inouï.
Non, je ne dis pas que non, mais enfin, ce n'est pas le moment de parler de Mademoiselle Clara.
C'est-à-dire que si tu ne trouves pas Mademoiselle Clara jolie, j'ai bien peur que tu n'aimes pas ta belle inconnue.
Mais pourquoi?
Parce que ta belle inconnue, c'est Mademoiselle Clara.
C'est pas possible.
C'est pas possible, c'est même sûr. Alors, est-ce que je dois faire passer ton petit mot à Mademoiselle Clara?
Non.
Tu ne vas tout de même pas laisser attendre la pauvre fille.
Et pourquoi ne pourrait-elle pas attendre un peu? Depuis qu'elle est au magasin, nous ne cessons de nous chamailler.
C'est elle néanmoins qui t'a envoyé ces lettres extraordinaires.
Oui, il a fallu que ça m'arrive à moi, cette histoire.
Va retrouver Mademoiselle Clara.
Non, jamais.
Vas-y donc.
Bonjour, mon cher baron.
Garçon. Votre horloge avance, n'est-ce pas?
Oh, n'ayez pas peur, mademoiselle. Il viendra.
Comment savez-vous que j'attends quelqu'un?
Oh, le livre ouvert, mademoiselle. La petite rose blanche.
Oh, eh bien, je voudrais un café crème, garçon.
Un café crème pour mademoiselle?
Pardon, garçon. Bonjour, mademoiselle Clara.
Monsieur Crowley?
Oh, pour une rencontre inattendue, c'est une rencontre inattendue. Vous n'avez pas vu monsieur Pirovitch par hasard?
Non, je ne l'ai pas vu.
Ça ne vous dérange pas que j'attende à votre table?
Oh non, je regrette, monsieur Kralik. Moi aussi, j'attends un rendez-vous.
Oh oui, oui, je me rappelle. Il m'a l'air d'être en retard.
Ne prenez pas un ton amer. Je comprends qu'après les ennuis que vous avez, vous soyez un peu amer.
Ou amer, moi? J'ai déjà eu 2 offres d'emploi.
Eh bien, j'en suis très heureuse.
Je vois que vous lisez. Vous lisez beaucoup?
Je crois que vous ignorez beaucoup de choses sur moi, monsieur Clary.
J'en connais peut-être beaucoup plus que vous ne pensez, mademoiselle Clara.
Alors vous devriez savoir que j'attends quelqu'un et que ce n'est pas vous.
Voici le café crème de mademoiselle. Ah, oh, monsieur est arrivé.
Monsieur n'est pas monsieur.
Enfin, vraiment, vous ne voulez pas de moi?
Voyons, monsieur Clary, nous ne sommes que des relations de bureau. Que connaissez-vous de moi? Vous avez de moi une image très superficielle.
Vous êtes peut-être une intellectuelle.
Cela vous gênerait, monsieur Kralik.
Vous avez peut-être une vie secrète.
Oh, monsieur Kralik.
Alors je vous gêne pour votre rendez-vous. L'inconnu n'a pas l'air pressé de se montrer.
Heureusement, je ne veux pas que vous vous rencontriez. Vous ne pourriez pas le comprendre. Vous êtes comme le pôle Nord et le pôle Sud. Cet inconnu que je connais, monsieur Kralik, c'est un homme merveilleux. Un poète, un rêveur.
Vous savez... Si votre rendez-vous venait, vous seriez probablement déçu. Après tout, il n'est peut-être pas si bien que ça.
Je le trouverai toujours merveilleux, monsieur Kralik.
Oh, merci, mademoiselle Clara.
Pourquoi, monsieur Kralik?
Oh, pour rien, mademoiselle Clara. Vous ne pouvez pas comprendre.
À monsieur Kralik, à monsieur Pirovitch, venez vite.
Nous avons pris un taxi pour arriver à l'hôpital dès que nous avons trouvé ton message.
Oui, Polo, que se passe-t-il?
Monsieur Matouchek a tenté de se suicider parce que Madame Matouchek le faisait cocu avec Vadash.
Avec Vadash? Oh, avec Vadash. Et Monsieur Matouchek tout le temps te soupçonnait, mon pauvre Kralik.
Qui, moi?
Oh, c'est pour ça qu'il a choisi la première occasion pour se débarrasser de toi.
Maintenant, monsieur Kralik, entrez dans la chambre. Mais tout doucement, monsieur Matouchek veut vous parler.
C'est gentil d'être venu, Kralik.
Oh, je vous en prie, monsieur.
Kralik, je vous demande pardon, je m'étais trompé.
Ne vous fatiguez pas, monsieur Matouchek.
Je sens que je vais être alité pendant assez longtemps. Accepteriez-vous d'être le directeur de Matouchek et compagnie?
Oh, monsieur Matouchek.
Alors, je compte sur vous. Merci. Tout ce que vous ferez sera bien fait. Je vous demande de mettre le petit polo à la vente.
Bien, monsieur.
Et puis, liquide vadache.
Et comment, monsieur Matouchek?
Bonjour, mademoiselle Clara. Alors, pas trop nerveuse?
C'est de votre faute s'il ne m'a pas parlé.
Votre rendez-vous?
Oui, il est venu. Seulement, il vous a vu. Il est reparti. Il s'est imaginé des choses.
Comment le savez-vous?
Il me l'a dit dans une lettre que j'ai reçue ce matin. C'est pour ça que je suis en retard. Oui. Figurez-vous qu'il m'écrit. Dites-moi toute la vérité. Je trouve que ce garçon avec qui je vous ai vu est très séduisant. Et je ne serais pas surpris que vous l'aimiez.
Je suis désolé de vous causer tant d'ennuis.
Demain, je serai fiancée. C'est ce qu'il m'écrit dans la lettre.
Je peux vous garantir que vous serez fiancée.
Comment le savez-vous?
Votre fiancé est venu me voir.
Il est venu vous voir?
Oui. Dans une de vos lettres, vous lui avez dit que je ne comptais pas pour vous. Il a voulu s'en assurer personnellement auprès de moi.
C'est un peu fort.
Il s'appelle Boudou.
Boudou?
Oh, vous vous y habituerez.
Mais au moins, il parle bien.
Il a une tendance à bégayer un petit peu.
Il bégaye. Oh!
Pourquoi avez-vous dit « oh »?
Je n'ai pas dit « oh ». J'ai dit « oh ».
Vous avez soupiré, mademoiselle Clara.
Ces lettres étaient merveilleuses, divines.
Si au lieu d'être lui, c'était moi.
Voyons, monsieur Kralik, vous ne savez pas parler aux femmes.
Je sais peut-être leur écrire aussi bien que Boudou. Oh, douce amie, je suis tout de suite tombé amoureux de vous quand vous avez écrit. Mon cœur tremblait comme une feuille. Et vous étiez là, étendu dans la boîte postale 237. Je vous ai sorti de votre enveloppe.
Monsieur Kralik, le vendeur modèle, était un poète. Monsieur Kralik m'écrivait les plus belles lettres du monde. Comment pouvais-je m'en douter? C'est incroyable. C'est merveilleux.
Vous le pensez vraiment?
Oui. Vous m'aimerez pour toujours, comme dans vos lettres. Nous allons nous écrire encore.
Oui, Clara, pour nous dire...
Pour nous dire quoi?
Oh, pour nous dire post restant, ce que nous n'osons pas nous dire au magasin.
Et, chers auditeurs, Clara est devenue Madame Kralik. Monsieur Matouchek a été témoin en mariage. Et Monsieur et Madame Kralik ont eu beaucoup, beaucoup d'enfants. Et ils sont très heureux. Et oui, ils sont toujours premiers vendeurs chez Monsieur Matouchek. Et moi? Oh, moi? Oh, naturellement, je suis encore second vendeur. Qu'est-ce que vous avez pensé? Pirovitch pour vous servir. Oui, oui, vous avez bien entendu. Ce sont nos bonbonnières musicales. Nous les vendons toujours et elles ont beaucoup de succès. Ah oui. Mais maintenant, excusez-nous, il est 6 heures. On ferme.
Vous venez d'entendre une adaptation radiophonique de Rendez-vous, film Metro-Goldwyn-Mayer, mise en scène par Ernst Lubitsch. Le rôle de Clara Novak a été interprété par Miss Jean Tierney, l'une des nouvelles stars de Hollywood depuis 1940. Celui de M. Matouchek, propriétaire de Matouchek et compagnie, a été interprété par Charles Deschamps. Et vous avez entendu dans le rôle du second vendeur Pirovitch, l'acteur américain Félix Bressard, qui a repris à la radio en français le rôle qu'il a créé à l'écran.
C'était la Cinémathèque de France Culture. Les plus grands chefs-d'œuvre du cinéma à partir des archives de l'INA. Une série d'émissions choisies par Julie Borghel, présentée par Anne de Biran, en collaboration avec Blandine Masson, Céline Geoffroy et Marie Simon. Restauration des émissions Jean-Marc Potry, à la technique Morgane Danan, réalisation Midia Portis-Guérin. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de franceculture.fr. Dimanche prochain à 20h, deux films de Claude Autant-Lara, Le Diable au corps et Sylvie et le fantôme.